Ce matin, je vais vous entretenir sur entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. On va commencer par Jean chapitre 14, les versets 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nous avons le Seigneur Jésus qui parle ici et nous sommes à quelque temps où il doit aller à la croix, où il doit mourir, où il doit ressusciter et où il doit monter au ciel. Donc il prépare un peu ses disciples à son départ. Et à ce moment, il leur entretient sur le fait qu'il doit partir. Mais qu'il ne va pas pour simplement y rester, mais il va surtout pour leur préparer une place. C'est ce qu'il leur dit. Et il leur dit, vous connaissez le chemin de où je vais. Et Thomas prend son courage et dit au Seigneur, tu dis que nous connaissons le chemin où tu vas, mais nous ne savons même pas où tu vas. Comment veux-tu que nous en connaissions le chemin. Et Jésus de répondre, je suis le chemin. Je ne parlerai pas du reste ce matin, pour l'instant en tout cas, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin. Souvent, il nous arrive dans nos quotidiens d'être dans des situations où nous ne savons pas ce qu'il faut faire, où nous ne savons pas quelle décision prendre, où nous n'avons pas les réponses à certaines questions. Et dans le cas présent, Thomas a eu une question. Il dit à Jésus, mais nous ne connaissons pas le chemin. Comment peux-tu dire que nous connaissons le chemin? En plus, nous ne savons même pas où tu vas. Ne trouvons-nous pas que la réponse de Jésus est surprenante? Puisqu'il dit à Thomas, si Thomas, tu connais le chemin. Il ne dit pas à Thomas, je vais te révéler le chemin parce que c'est vrai, je ne t'ai pas expliqué avant. Il ne dit pas à Thomas, ah c'est vrai Thomas, tu ne connais pas le chemin, je vais te donner la réponse, je vais te montrer quel est le chemin. Il dit à Thomas, tu connais le chemin. C'est surprenant. Puisque quand Jésus dit qu'il va, en haut, leur préparer une place, en vérité, oui, ils ne savent pas où il va. Et ils ne savent pas quel est le chemin pour y aller. Donc on pourrait dire que la question de Thomas est légitime. Mais pourtant, moi, la réponse de Jésus me surprend. Puisqu'il y a Thomas, qu'il connaît ce chemin. Vous savez, nous sommes, pour certains en tout cas, chrétiens depuis des années. Peut-être certains chrétiens depuis des semaines. Peut-être certains en chemin qui viennent à l'église et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Peut-être que ce matin, vous avez été invité à l'église et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous écoutez la parole. Peut-être que vous avez été dans l'enfance baigné par une culture chrétienne, mais que vous n'avez pas donné votre vie encore à Jésus. Mais ce matin, cette parole est aussi pour vous, ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Parce que Jésus dit ce matin qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Alors ce matin, ce qui m'intéresse, c'est ce chemin-là. Et il arrive que nous, qui connaissons déjà le Seigneur, que nous nous posions des questions, que nous ne savons pas comment réagir, ne savons pas comment faire. Parfois, nous cherchons des solutions. Mais nous sommes chrétiens depuis quelque temps, ce qui veut dire que on a déjà lu la parole de Dieu. On a déjà la connaissance de Dieu. On a déjà entendu des enseignements, que ce soit à l'Église, aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On a déjà une connaissance de Dieu. On a déjà une approche de Jésus. Et là, si on se retrouve devant une situation, on réagit en ignorant. C'est-à-dire, on s'est dit, on ne connaît pas la réponse. On ne connaît pas comment réagir. Et alors, parfois, on reste sur notre interrogation. On reste sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'il faut prendre comme décision. On ne sait pas quel chemin prendre. On ne sait pas quelle œuvre mettre en place. Et moi, quand le Seigneur m'a fait comprendre ce matin, ou plutôt ces quelques jours, qu'il y a des choses que nous connaissons, mais simplement, nous ne les appliquons pas. Nous connaissons beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit que la connaissance enfle, mais l'esprit donne la vie à ce que nous connaissons. Il nous arrive, en tant que chrétiens, d'avoir de la connaissance. Nous savons qu'il faut prier, nous savons que le Seigneur a dit de ne pas être en colère, nous savons que le Seigneur a dit de pardonner, nous savons que le Seigneur a dit de lire sa parole, nous savons que le Seigneur a dit, mais quand on se retrouve devant les situations, on a l'impression que Dieu n'a jamais parlé, que Dieu n'a jamais rien dit. Et parfois, quand quelqu'un te conseille que ça marche, tu te rends compte, mais qu'en fait, ce conseil, je le connaissais. Si je rentre vraiment en moi, je me rends compte que je le savais. Souvent, quand quelqu'un a un problème et qu'on donne le conseil, tu te rends compte qu'en fait, moi aussi, quand quelqu'un est dans un problème, j'apporte des conseils. Mais quand c'est toi-même qui es dans le problème, tu es comme troublé. Tu ne sais plus comment réagir. Tu ne sais plus que faire. Mais si tu t'étais assis 5 minutes, si tu étais rentré en toi-même, si tu avais commencé à chercher le Seigneur en toi, tu aurais trouvé la réponse. Tu aurais trouvé le conseil de Dieu. Mais quand on a un problème, tout de suite, on extériorise, c'est-à-dire on se confie et on dit « Ah, j'ai tel problème. » Et quelqu'un d'autre apporte la solution. C'est bien, mais parfois la solution est en nous, puisque le Christ est en nous. La semaine dernière, le pape disait, Antoine le pasteur, que le Seigneur a dit que voilà, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui. Antoine disait que nous recevons en nous l'Office, le Père et l'Esprit. Et pour nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons le Christ en nous. Nous avons donc toutes les réponses en nous. Thomas avait la réponse en lui. Thomas avait la réponse. Mais il ne savait pas que la réponse était devant lui. Jésus était la réponse à sa question. Il a dit, je suis le chemin. Lorsque je me pose des questions, je me rends compte qu'en fait, plusieurs des réponses sont en moi. Et que si je faisais l'effort de chercher en moi, je trouverais la réponse. Nous avons beaucoup de mal, en tant qu'enfants de Dieu, à rester constant dans la foi, à rester constant dans la méditation de la parole, à rester constant dans la prière, à rester constant dans la louange, parce que oui, nous devons louer à la maison, pas que le dimanche. Nous devons louer à la maison, nous devons louer dans la voiture, nous devons louer quand on prend notre douche, nous devons louer, on loue le Seigneur. Mais on n'est pas constant dans ces choses. Et pourtant, nous savons que nous devons être constants. Et en fait, quand tu es enfant de Dieu, et que tu grandis un peu dans la foi, tu te rends compte que les choses que tu vis, finalement, dépendent beaucoup de ton implication avec Dieu. C'est-à-dire que parfois, moi, personnellement, je sais quand je suis faible et je sais pourquoi je suis faible. Je sais quand je suis fort et je sais pourquoi je suis fort. C'est-à-dire, si j'ai passé une semaine sans prendre le temps de méditer la parole de Dieu, si j'ai passé une semaine sans prendre le temps de prier, je le ressens dans ma semaine. Je le ressens même dans mon travail. Je le ressens dans mes comportements. Je le ressens dans mes frustrations. Je le ressens quand je vais gronder mon fils. Tout de suite, le Seigneur me reprend. Et je sais que c'est parce que je n'ai pas médité la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole s'imprègne dans mon cœur. Et elle guide mes pas, mes pensées, mes comportements, mes réactions. Si j'ai médité une parole qui a dit de ne pas me mettre en colère, si je vois mon fils en train de faire une bêtise, je saurai me maîtriser. Parce que la parole de Dieu a imprégné mon cœur. Mais si j'ai passé 2, 3, 4 semaines, 1 mois, sans méditer la parole, sans qu'elle imprègne mon cœur, mes réactions seront charnelles. Elles ne seront pas spirituelles. Et donc on a besoin de se rendre compte qu'en nous, nous avons tout. On a chanté combien Dieu est grand. Imaginons-nous combien ce Dieu qui est grand habite en nous, qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Imaginons-nous les réponses aux questions que nous nous posons, aux situations que nous traversons, aux difficultés que nous vivons, aux caractères. Je suis le chemin de toutes tes questions. Je suis le chemin de toutes tes interrogations. Je suis le chemin de toutes tes difficultés. Adresse-toi à moi. Pose-toi devant moi. Prends le temps de méditer, de prier, de me chercher, et tu me trouveras. Vous savez, nous vivons à côté de Dieu, mais nous ne vivons pas en réalité dans le quotidien avec Dieu. C'est-à-dire discuter avec Dieu, échanger avec Dieu, rire avec Dieu, parler avec Dieu, et parfois lui dire que « Seigneur, là, je ne suis pas d'accord ». Parce que tu ne comprends pas encore, mais il va t'expliquer. Et la maturité spirituelle, la croissance, nous amène à rentrer dans cette intimité, cette communion avec Dieu, pour qu'il soit notre chemin, pour qu'il soit notre réponse, pour qu'il soit celui qui nous encourage. Parce que on vient dimanche à l'église, on a passé une semaine difficile. On chante, on loue, on se sent bien. Et puis quand on rentre à la maison, on a eu cette énergie. Donc, on commence à prier, on commence à méditer. Et puis quelque chose nous arrive au travail. Une mauvaise nouvelle, un décès, un problème, une maladie. Tout de suite, l'énergie retombe. On se sent plus bien. Alors qu'il y a un jour, 2 jours, pendant que tu étais au culte, quand tu es sorti de ce culte, tu avais une énergie, une force, une foi. Mais dès qu'un événement est arrivé, extérieur, il a troublé ta pensée. Il a troublé ta foi. Et tout ce que tu as entendu à l'église, tout ce que tu as chanté, ne prend plus vie en toi. Ce Dieu que tu as dit combien il est grand, il devient petit devant ta situation. Ce Dieu que tu as chanté combien il est puissant, il devient incapable de te délivrer. Parce que ta pensée a été influencée par la situation extérieure que tu vis. On va lire Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, la porte et le chemin. Lorsque nous prenons nos décisions, c'est facile de se mettre en colère. C'est facile de mal réagir. Je dirais même, c'est facile de faire du mal. C'est facile de critiquer. C'est facile de ne pas être d'accord. On dit souvent que faire du mal est facile, mais faire le bien est difficile. Étroite est la porte, resserrée est le chemin pour faire du bien. Étroite est la porte, resserrée est le chemin pour être constant dans la foi. C'est difficile. Le chemin de la foi est difficile. C'est une porte étroite et un chemin resserré. Il est facile de ne pas être d'accord avec Dieu. Il est facile de ne pas être d'accord avec son frère. Il est facile de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est facile, on n'a aucun effort à faire pour cela. Mais pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut de l'effort. Il faut de la persévérance. Il faut de l'envie. Il faut du courage. Il faut de la volonté. Alors, je me permettre, je ne le fais pas souvent, mais je vais le permettre, Isabelle, c'est ça? Oui. C'est la première fois que tu viens à l'église, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est une chrétienne, c'est la grand-mère de Louise, hein, de la famille. Et ce matin, en discutant avec elle à l'accueil, elle m'a dit quelque chose et qui va bien dans ma prédication. Donc elle a dit qu'elle est venue ici parce qu'il y a un déménagement dans la famille, donc elle est venue assister au culte. Elle m'a dit que d'habitude, elle va dans une autre église et elle fait combien? 50 minutes, c'est ça? 50 minutes pour aller à son église. Et donc, je lui ai dit, waouh, t'es courageuse. Elle m'a, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tu peux dire ce que tu m'as répondu, s'il te plaît? Vous avez entendu? Elle m'a répondu, je ne suis pas courageuse, je suis amoureuse. J'ai dit, waouh. Elle m'a dit, je suis amoureuse de Jésus. Ce n'est pas le courage qui l'a fait lever le matin pour prendre 50 minutes de route, sachant qu'il faut le temps pour se préparer, s'habiller, se laver, et après le temps de retour. C'est parce qu'elle aime le Seigneur. Elle aime son Dieu. Qu'est-ce qui nous fait défaut pour faire cet effort pour Dieu? Qu'est-ce qui nous fait défaut pour manifester notre amour pour le Seigneur? La Bible dit quoi? Celui qui m'aime gardera ma parole. Elle est simple, cette phrase. Celui qui m'aime gardera ma parole. Et le Père et moi viendrons en lui. Et nous habiterons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. On a du mal à garder la parole de Dieu. On a, je dis bien on, moi-même y compris, on a du mal à rester constant dans le Seigneur et même à aller encore plus loin, à persévérer et à percer. On se laisse aller au gré des vents et des circonstances. On se laisse aller au gré des difficultés de la vie. Je suis en bonne santé. Je suis dans la joie. Je commence à avoir un bobo. Je suis dans la tristesse. Et je me dis, mon Dieu m'a abandonné. Mais croyez-vous que Dieu dépend des temps et des circonstances? Non! Et pourtant, nous le savons, mais cette parole n'a pas imprégné notre esprit et n'a pas habité notre cœur. On l'a récitée, mais elle n'a pas imprégné en nous. Comme un rhéma, comme une révélation, comme quelque chose, on s'est dit, oui, c'est vrai, Dieu habite en moi. Pourquoi me quitterais-je? Il est là dans mon cœur. Quelque chose ne va pas. Je fléchis le genou de ma chambre et je prie. Mon Dieu, révèle-toi. J'ai besoin de toi. Voici la circonstance. Nous connaissons les histoires bibliques. Oh oui, nous en connaissons. Ces rois qui prenaient des lettres, déposaient devant le Seigneur, priaient, et le miracle se passait. Ces rois qui écoutaient la parole de Dieu, on disait, voilà, les murs de Jéricho vont tomber. On a chanté, ma louange, renverse les murs de Jéricho. Mais quand tu es devant ton problème, est-ce que tu loues? Est-ce que tu te souviens que tu as chanté que ma louange renverse les murs de Jéricho? Est-ce que tu dis, Seigneur, j'ai tel problème, je veux commencer à louer le Seigneur? Parce que la louange peut renverser les forteresses. Tu l'as lu, tu l'as chanté, mais quand le problème arrive, tu l'as oublié. Alors que Dieu ne change pas. Et sa parole demeure la vérité. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous méditerons la parole, qu'elle habitera en nous, vous verrez des changements, des transformations. Je parle de vécu. Je vous ai dit que je sais quand je suis faible, je sais quand je suis fort. Et je sais quand je médite la parole de Dieu, quand je m'accroche à la parole, quand je m'accroche à la louange, quand je m'accroche dans la prière, quand je jeûne, je sens la différence et je la vois dans mon quotidien. Ça n'arrive pas à certains ici? Je sens la différence dans mon quotidien. Et c'est là où je comprends que l'action de Dieu dans ma vie dépend de moi. Il est toujours disponible. L'action de Dieu dans ma vie dépend de moi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Il s'approchera de vous. Quand je m'approche de Dieu dans la prière, il s'approche de moi. Et plus je prie, plus il s'approche. Jésus priait tellement que l'ange s'est révélé. Et est venu le fortifier. Le jeûne. Prenez des temps de jeûne personnel, individuel. N'attendez pas que l'Église proclame un jeûne. Le jeûne est aussi un moyen de se rapprocher de Dieu. De dire, Seigneur, je fais abstraction de tout. Pendant 2 jours, 1 journée, 3 jours, peu importe. Mais fais-le. Sois te rapprocher de Dieu. Et tu verras plusieurs choses dans ta vie vont se décanter. Les situations qui étaient difficiles, impossibles, vont se résoudre. Parce que tu t'es approché de Dieu et Dieu s'est approché de toi. Il est le chemin. Il n'est pas seulement le chemin pour la foi. Il est le chemin en tout et pour tout.
Nous allons lire Jean chapitre 15, s'il te plaît. Verset 4 et verset 7.
Demeurez en moi, tout ça on connaît, mais on n'applique pas. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Demeurez avec moi.
Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus a rencontré les disciples, à un moment donné, Jésus a voulu partir. Mais ils l'ont retenu. Reste avec nous. Et c'est quand ils l'ont retenu, et c'est parce qu'ils l'ont retenu, que Jésus, en brisant le pain, s'est révélé à eux. S'ils n'avaient pas dit à Jésus, « Demeure avec nous, reste avec nous », jamais ils n'auraient su que celui qui marchait avec eux sur le chemin d'Emmaüs, c'était le maître qui était mort et ressuscité. Mais parce qu'ils ont dit, « Reste avec nous », ils ont désiré rester avec Dieu encore un peu plus. Et alors Dieu se révélait. Jésus s'est révélé, « Je suis Jésus ». Et lorsqu'il a brisé le pain, les yeux se sont ouverts. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont invité chez eux. Ils marchaient ensemble sur le chemin, ils restent avec nous, allons à la maison, mangeons le pain ensemble. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant, il est en nous. Continuons. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme le sarment, il est séché, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Continuons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, on lit ces paroles et après on se dit, Seigneur, j'ai prié, je n'ai pas reçu. Seigneur, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Oui, parfois ce que nous demandons n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est vrai. Mais parfois aussi, c'est parce qu'on n'est pas demeuré avec le Seigneur. Vous savez, il y a des personnes, moi j'ai connu, dans les églises, des gens que tu vois à l'église, il vient tous les dimanches, il a un souci, on prie pour lui, dès que le souci est résolu, on ne le voit plus à l'église. Il a demeuré avec le Seigneur? Non. Mais Dieu est tellement bon qu'il le bénit. Mais après, il disparaît. Et vous savez, nous parfois, on est comme ça dans notre marche. C'est-à-dire que nos temps de prière intense, c'est qu'on a des problèmes. Alors on prie, on prie, on prie. Dès que le problème est résolu, on lâche la pression de la prière. Dès qu'on a un petit souci, « Ah Seigneur, ah Seigneur !» Ah Seigneur, ah Seigneur, dès qu'on a la solution, on prie moins. On invoque moins le nom de Dieu. Mais on devrait rester constant. Et je répète, on, moi y compris, on devrait rester constant. Parce que Dieu veut t'amener plus loin. Dieu n'est pas celui qui vient seulement pour résoudre nos bobos. Comme disait Alexis la dernière fois, Dieu a un projet plus grand que toi. Le bobo pour le Seigneur, c'est rien. Rapidement, il résout le problème parce qu'il veut t'emmener plus loin. Il a un autre projet, beaucoup plus grand que toi. Mais si, lorsque notre problème est résolu, lorsque tout va bien, on diminue l'intensité de notre relation avec Dieu, n'espérons pas que notre vie spirituelle va prendre de l'ampleur. N'espérons pas que certains problèmes ne vont pas ressurgir. On a besoin d'une constance dans notre relation avec Dieu. Luc 13, 24, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est quoi la première phrase? Premier mot, efforcez-vous. Ce n'est pas facile, je le sais. Personnellement, à un moment donné, j'avais une discipline. Chaque 5 heures du matin, je me réveillais pour prier. Pendant un certain temps. Tous les jours, à 5 heures, je me levais pour prier. Pendant 1 heure, je priais, jusqu'à 6 heures. 1 heure. Je fais ça pendant un certain temps. Et j'ai vu ce que ça a produit dans ma vie. Pendant un certain temps, avec mon épouse, on avait un jour de jeûne et prière. Tous les vendredis, on jeûnait et on priait, pendant peut-être 2 ans. Tous les vendredis. Donc, un jour par semaine. Tous les vendredis, on jeûnait, on priait, on jeûnait, on priait. Tous les vendredis. On a vu les effets dans nos vies. Quand tu cherches Dieu, la Bible dit, « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. » Quand tu lis cette parole, tu dis, « Seigneur, tu as dit que tu te laisseras trouver par celui qui te cherche, s'il te cherche de tout son cœur. Moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te chercher de tout mon cœur. » C'est comme ça que moi, j'ai commencé, hein, quand j'étais jeune dans la foi. J'ai commencé à prier tous les jours. J'ai commencé à méditer la parole tous les jours. Quand j'étais jeune dans la foi, je crois déjà l'avoir dit ici, mes voisins venaient cogner chez moi. Tu fais du bruit. Parce que j'ai passé mon temps à prier, à prier, à prier. Les voisins venaient cogner chez moi à chaque heure pour me dire tu fais du bruit, j'étais en résidence universitaire. Parce que j'avais lu cette parole et je cherchais Dieu. Alors j'ai commencé à méditer tout le temps, à prier tout le temps, à louer tout le temps. Un jour, je dormais. Non, je ne vais pas vous raconter ça. Parce que c'est mystique ce que je veux vous dire. Donc, je laisse passer. C'est concernant les anges. Chacun de nous avons peut-être certaines expériences angéliques. Moi, j'en ai eu. Pendant que j'étais en résidence universitaire. Pendant que je dormais, que j'avais passé un temps de prière intense dans ma chambre universitaire. Mais que Dieu soit loué. 2 Corinthiens 5 à 9. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Nous nous efforçons de lui être agréable. Efforçons-nous d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde. On a nos activités, on a nos penchants, nos désirs charnels et autres. On a nos envies, on a nos difficultés. Après tout, nous sommes des hommes. Mais efforçons-nous à être agréables à Dieu. Faisons tous nos efforts pour plaire à Dieu. Et je parle, comme dit l'apôtre Jean, à des personnes qui connaissent la parole. Je ne parle pas à des personnes qui ne la connaissent pas, peut-être pour certains, mais la majorité ici connaissent les Écritures. Ils savent ce que Dieu veut. Vous savez ce que Dieu veut. Chacun de nous, on sait ce que Dieu aime chez nous. Et chacun de nous, on sait ce que Dieu n'aime pas chez nous. Efforçons-nous de diminuer la part que Dieu n'aime pas un peu plus chaque jour. Ce n'est pas facile, je répète. Mais vous voyez, 50 minutes de route, ce n'est pas facile. Parce qu'elle est amoureuse de Jésus, elle le fait. Si on était tous amoureux comme ça de Jésus, ce serait magnifique. Continuons rapidement, je vais prendre deux autres versets. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous connaissons aussi ces passages pour certains. Est-ce qu'on fait de la violence sur nous-mêmes? L'apôtre Paul disait qu'il traitait durement son corps. Il faisait de la violence sur lui-même parce qu'il connaissait ses faiblesses. Il connaissait ses manquements et il connaissait les exigences de Dieu, les standards de Dieu, les normes de Dieu. Alors il s'est dit, je n'ai pas le choix. Je dois traiter durement ce corps qui ne répond pas aux standards de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je dois changer ce caractère qui ne répond pas aux normes de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je veux changer ces habitudes qui ne répondent pas aux normes de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je veux changer ces amitiés qui ne répondent pas aux normes de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je veux changer ces fréquentations, les lieux où je vais, qui ne répondent pas aux normes de Dieu. Je veux changer ces addictions qui ne répondent pas aux normes de Dieu. Parce que je n'ai pas le choix. Si je veux plaire à Dieu. Et je crois que tout enfant de Dieu veut plaire à son Dieu. Alors faisons cet effort, efforçons-nous. Alors, 2 Timothée 2,15. Le même mot. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Lorsque nous venons dans la prière et que nous nous mettons à genoux devant Dieu, est-ce que durant toute notre journée, on s'est efforcé et que quand on vient se présenter devant Dieu dans la prière, je dis oui, je me suis efforcé cette semaine, cette journée pour être un ouvrier éprouvé. Et je me présentais devant. Je me suis efforcé aujourd'hui, Seigneur, d'être un bon chrétien. Je me suis efforcé aujourd'hui d'être un bon serviteur. Je me suis efforcé aujourd'hui d'être un bon père de famille. Je me suis efforcé aujourd'hui d'être un bon mari, une bonne épouse. Je me suis efforcé aujourd'hui d'être un bon ouvrier dans l'entreprise où je travaille. Je me suis efforcé d'être un bon frère à la maison, une bonne sœur. Partout où nous sommes, Dieu attend que nous nous efforçons d'être des dignes représentants de Dieu. Je vais vous faire entendre aussi un témoignage, si mon épouse peut nous partager deux, trois choses avant que je ne conclue.
Bonjour à tous. Alors, je vais parler plus sur la vie professionnelle, au fait, l'expérience avec Dieu. Et vous savez, j'avais déjà témoigné il y a très longtemps par rapport à ma reconversion professionnelle. J'avais quitté les domaines de l'informatique pour aller vers la comptabilité. Et ce n'était pas facile, mais j'avais demandé à Dieu. C'était vraiment pour son œuvre et pour prendre soin aussi de ma famille. Parce que en informatique, j'avais des astreintes, la vie n'était pas facile, je ne pouvais pas gérer, concilier vie familiale et spirituelle. En même temps, c'était délicat, donc du coup, j'avais décidé d'aller vers la comptabilité. La comptabilité, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et ce n'était pas facile, changer complètement. Et j'avais fait cette prière à Dieu, j'ai dit « Seigneur, je vais faire ces changements, tu sais les raisons ». C'est pour l'avancement de ton œuvre, parce que pour moi, mes enfants, c'est une œuvre de Dieu. Je prends ça comme ça, je conçois ça comme ça. Et je vais faire ça pour avoir le temps pour eux. Et aide-moi. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je veux qu'à chaque fois que je serai face à des difficultés, que tu sois là pour moi. Et c'est pas toujours facile quand tu dois gérer la vie de famille. prendre beaucoup de temps dans la prière les matins. Je prie hein, chaque jour à 5 heures. Mais pour rester en permanence avec Dieu dans le contact, dans la prière, j'ai utilisé ça différemment. Quand je suis dans ma voiture, je prie. Quand je suis dans mon travail, je prie. Je n'ouvre pas la bouche, je commence à prier, mais je prie dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, tu vas m'aider dans mes difficultés. Et quand tu changes de métier, je vous avoue, ce n'est pas facile. Quelque chose que tu n'as pas fait, mais je vis aussi la main de Dieu. Parce que j'ai décidé de faire confiance à mon Dieu et de rester en permanence dans la prière quand c'est dur. Le premier jour que j'intègre dans un cabinet d'experts comptables, ma première expérience, là je suis maintenant en entreprise, mais j'étais d'abord dans un cabinet d'experts comptables. Tout de suite j'arrive, on me donne des dossiers comme si j'étais déjà experte, comme ces cabinets d'experts comptables, ben moi j'étais pas experte en fait. J'ai pris les dossiers, je regardais, tout de suite on m'a même pas expliqué, on m'a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. J'ai dit ben Seigneur, je commence par où en fait? Mais le Seigneur m'a dit fais-moi confiance. Et j'ai commencé à faire des choses. Moi-même, je peux vous dire aujourd'hui, je ne comprenais même pas ce que je faisais. Mais quand je finis, j'ai rendu le dossier. Mon N plus 1 m'a dit, mais c'est parfait ce que tu fais. J'ai dit, mais Seigneur, c'est une blague, il se moque de moi ou c'est vraiment réel? Mais le Seigneur m'a assisté. Et deuxième expérience, à peine j'ai commencé dans ces cabinets-là, mon père était très malade. Il s'est trouvé en soins palliatifs. T'es dire que ton père qui est dans des kilomètres, qui est mourant, et continuer à rester opérationnel, un métier déjà que tu changes, c'est compliqué, il fallait y aller. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de te faire confiance, je t'ai fait confiance. Toutes les 2 minutes, je partais aux toilettes, je pleurais, je rentrais, je travaillais, et mon père est décédé entre deux, il fallait continuer à être opérationnel. Mais je vis la main de Dieu. Je peux vous assurer, je n'ai jamais fait de progrès, ou je pourrais dire même cartonner professionnellement, dans ces temps-là difficiles, parce que j'étais en contact avec Dieu. On m'a donné des dossiers compliqués, je disais, Seigneur, travaille à ma place. C'était vraiment le mot que je disais. Je ne faisais pas des kilomètres de prière, je disais, Seigneur, travaille à ma place. Et je vis la main de Dieu, et j'ai eu des appréciations que je n'ai jamais eues dans ma vie professionnelle, même en informatique, où je me sentais beaucoup plus à l'aise, je n'avais jamais eu ce type d'appréciation. Et là encore, c'est quelque chose que je vis actuellement en entreprise. Et avant, j'étais comptable en trésorerie. Là, je suis passée dans la comptabilité générale. Ce n'est pas facile. Tu changes de choses. Ce n'est pas la même façon d'appréhender la comptabilité. Et je fais les bilans comptables. Et il arrive que pendant ces temps-là, tu te retrouves deux fois face où tu fais les dossiers, mais tu dois traiter encore tes tâches transverses en parallèle pendant la période de bilan. Et deux fois, tu sens la colère, deux fois, quand on te pose trop de questions, pendant que tu veux rester concentré, la colère qui monte. Comme j'avais dit une fois en réunion des prières, Alexis nous avait demandé des choses lors d'une réunion des prières, demandez à Dieu de transformer quelque chose dans votre cœur. Parce que de nature, la vieille nature, pas prudence d'aujourd'hui, mais j'étais vraiment, quand il fallait y aller, s'il faut attaquer quelqu'un, je fonçais. Mais j'avais demandé à Dieu le jour-là de cette prière-là, Seigneur, donne-moi la douceur, donne-moi la tempérance, savoir comprendre les gens même quand ils font des choses qui ne sont pas comme moi j'aurais vu dans ma vie. Mais le Seigneur vraiment m'a transformé ces côtés-là. Et même en entreprise, quand on me donne la pression, on t'ajoute des choses, j'essaie de dire, calm down, prudence, reste sereine. Et là, ça s'est passé encore récemment, vendredi, j'étais dans cette situation-là. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, respire prudence. Et après, j'ai commencé à travailler tranquillement, j'ai demandé vraiment la sérénité et le Seigneur a fait que je fais ce qu'il fallait faire et j'ai posé la question à la personne qui m'avait demandé de faire la chose. Est-ce que je répondais à ta demande? Tranquillement, sans m'énerver. Est-ce que tout est OK? M'a dit OK, mais merci, c'est parfait. Et ça, ce n'est pas par moi-même. Je me suis efforcée de faire la volonté de Dieu, de rester clean. Et aujourd'hui, je vous encourage, même dans la vie professionnelle, je sais que c'est difficile des fois, il y a la pression au travail, mais dans cette pression, là, dit Seigneur, prends ma pression. Et le Seigneur au contrôle, il agit.
Merci Madame Zamba, que Dieu te bénisse. Alors, on va lire un dernier passage, c'est 2 Chroniques, chapitre 7. Du verset 11 au verset 18. «
2 Chroniques 7, 11 à 18. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Continuons, c'était jusqu'au verset 18. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, voilà ce qui m'intéresse ici, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, nous sommes aujourd'hui ce peuple de Dieu, sur qui est invoqué le nom de Jésus, si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons la face de Dieu. Vous savez, quand on a un besoin profond, on cherche ce besoin jusqu'à l'obtenir. J'ai suivi une vidéo sur Internet, c'est un motivateur, un Américain. Il était dans un endroit et il faisait son discours de motivation. Et il disait, si l'on prend quelqu'un et on l'amène auprès d'une rivière et qu'on rentre avec lui dans l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive au visage, et si subitement on prend sa tête et on le met dans l'eau, que va-t-il faire? S'il veut se relever et que vous continuez à presser la tête, que va-t-il faire? Il va se débattre de toutes ses forces. De toutes ses forces. S'il doit vous mordre, s'il doit tirer, s'il doit faire quoi que ce soit, il va se battre de toutes ses forces pour que vous lâchiez la pression sur sa tête et sur son cou. Et ce monsieur disait, lorsque vous aurez envie de réussir dans la vie, comme cet homme a eu envie de vivre et s'est battu pour sortir de l'eau, alors vous réussirez dans la vie. Et la foi, c'est pareil. La foi, c'est pareil. Si on s'engage avec Dieu, où plus rien ne compte, sinon ma relation avec Dieu, plus rien ne compte, sinon mes temps de prière, rien ne compte, sinon mes temps de méditation, rien ne compte, sinon mes temps de louange. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai tout regardé comme étant de la boue, à cause de l'excellence de la gloire de Dieu. Si nous regardons tout autour de nous, comme si ça ne comptait pas. Ce matin encore, qu'on est en temps de prière, à 9h, 30, on a repris ce verset qui disait que si nous cherchons les choses de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous sera donné par-dessus. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons premièrement la relation avec celui qui est venu habiter dans nos cœurs. Cherchons premièrement la relation avec celui qui nous a aimés et qui nous aime encore. Cherchons premièrement la relation avec celui qui nous a appelés enfants de Dieu. Vous savez, comment je rentre chez moi le soir, j'ai un rituel avec mes enfants. Dès que j'ouvre la porte, je rentre. Je les ai habitués comme ça. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, ils doivent arrêter de le faire et ils doivent venir me dire bonjour. Tous mes enfants, c'est comme ça.
Dès que j'ouvre la porte, je rentre, il voit que c'est papa, que tu es sur la télé, que tu manges, que tu es en haut. Tu descends, tu viens dire bonjour à papa, tu me fais un câlin. Je les ai éduqués comme ça. Parce que moi, mon père m'a éduqué comme ça. Et donc, Dieu, c'est pareil. C'est ce père qui veut les câlins tous les jours. C'est ce père qui veut nous serrer dans les bras tous les jours. C'est ce père qui veut demeurer avec nous. Comment a été ta journée? Comment allait se passer? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Demain, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as prévu? Et comme des bons pères, nous aussi, on dit à nos enfants, « Ah, tu as prévu faire ça. Je pense que ça, ce n'est pas bon. » Et Dieu fera pareil avec celui qui prendra le temps de venir passer un moment d'intimité avec lui pour lui présenter son programme, pour lui présenter son planning, pour lui présenter ses projets, pour lui présenter ses envies. Dieu te dira, il te montrera le chemin. Alléluia.